Quatrième et dernière étape. Après, alors, vous avez fait le plus gros, je vous rassure, maintenant, j'espère que vous avez survécu. La partie de convergence et de conflit d'intérêts, on a vu que c'était une des parties les plus compliquées, hein. On a vu beaucoup, beaucoup de choses différentes. Maintenant, on va parler un petit peu de la coordination. Alors, regardons un petit peu plus près. Ce qui est intéressant à retenir dans la coordination, c'est qu'il n'y a pas une tâche. On dit souvent, il y a un coordinateur. Hier, je disais, bah tiens, il y a un dictateur bienveillant qui fait tout. Bon, c'est peut-être bien au début, mais on va voir que ça apporte quand même des limites, et donc ça serait bien d'en sortir aussi. Alors, essayons de regarder les différents rôles. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme tâche de coordination? Alors, il y a définir les objectifs. Ça, c'est un truc de coordination. Ça peut être la mémoire du groupe, garder l'histoire, faire converger les gens. Tiens, ça, on l'a vu, ça fait partie du rôle aussi du coordinateur. Pas trop, mais un petit peu quand même. Faciliter l'implication. On l'a vu. Bref, un certain nombre de choses comme ça, faire des choix, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qui coordonne. Alors, hier, il y avait un truc très intéressant. On disait, ben voilà, il y a l'élu qui fait les choix, et puis il y a le coordinateur qui fait tout le reste. C'est pas très facile, quand même. On pourrait aussi se dire, qui définit les objectifs? Alors, au début, si c'est un projet que vous n'avez pas encore monté, eh bien, il y a une personne qui définit les objectifs. Mais ça peut être vachement intéressant si après, les objectifs sont définis collectivement. Ce qui veut dire que la définition des objectifs, cette tâche de coordination, n'est plus une tâche individuelle, mais une tâche collective. Et donc, il peut y avoir des tâches collectives, des tâches individuelles, des tâches portées par différentes personnes. L'un peut être plutôt la mémoire du groupe parce qu'il est là depuis très très longtemps. L'autre, il va être plutôt celui qui va impliquer les gens, motiver, etc. peut-être. Ou ça peut être des personnes différentes. Donc, plusieurs cas de figure pour chacune des tâches. Soit c'est une personne, soit c'est une autre personne différente, soit c'est collectivement. Et la bonne réponse, qu'est-ce qui est le meilleur groupe? Eh bien, la réponse, c'est j'en sais rien, ça dépend. Ça dépend à quelle étape est le groupe. Au début, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un coordinateur qui fait tout. C'est pour ça que je l'ai appelé dictateur bienveillant. Et puis, on peut imaginer qu'au fur et à mesure, certaines tâches, lorsque le groupe est mature, peuvent être prises en charge par tout le monde. Mais si vous dites, ah ben moi, mon groupe, je veux bien faire un groupe, mais alors, il faut que les gens s'impliquent, c'est eux qui vont coordonner, moi, je me mets de côté. Je peux vous dire que vous n'avez aucune chance que votre groupe y démarre. Donc, au départ, ça commence souvent centralisé. Et puis, après, petit à petit, eh bien, vous pouvez faire en sorte de pouvoir décentraliser un petit peu les idées. Donc, en fonction de ça, on pourrait dire, l'idéal, ça serait qu'un groupe, il soit complètement, totalement collectif sur toutes ces tâches de coordination, mais ça voudrait dire qu'il soit totalement mature. Et je peux vous dire que je ne connais pas des groupes qui soient absolument à 100% matures. Donc, sachez plutôt, non pas quel est le groupe idéal, mais comment, dans votre groupe à vous, est-ce qu'on est mature aujourd'hui pour que les objectifs soient définis en commun ou à plusieurs? Est-ce que par contre, je n'ai pas intérêt à garder la mémoire parce qu'il ne faut surtout pas la perdre et donc c'est un truc un peu critique? Et alors, pour arriver à définir qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, l'astuce, c'est de se poser une petite question toute simple. La question, c'est, regardez, ici, vous êtes sous un petit boulet là, et puis il y a une chaîne dont un des maillons, mais vous ne savez pas du tout lequel, pourrait casser. Ici, vous êtes sous une boule, vous avez plein de cordes là-dedans, et une des cordes pourrait casser. Vous préférez être sous lequel? Je vais vous donner un peu la réponse là, quand même. À votre avis, évidemment, on est plus confortable sous l'autre. Pourquoi? Bah, regardez bien. Bon, d'abord, parce que ici, vous allez vous prendre sur la tronche, mais ça veut dire que chaque maillon, chaque chose est critique. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, c'est pas bon. Ici, chaque corde qui tient encore est une opportunité. C'est-à-dire que si ça marche, tant mieux. Alors, je vais vous citer un petit exemple de ce qu'on a fait en 2000. On nous avait demandé de monter l'Internet Fiesta. Vous savez qu'il y a la fête de l'Internet française. Et donc, la Commission européenne a dit, bah, tiens, c'est bien, on va faire la fête de l'Internet mondial. Donc, la différence, c'est qu'ils nous ont dit, c'est bien, vous allez faire avec zéro. Donc, on a fallu faire avec zéro euro. Et on a mobilisé des gens dans tous les pays. C'était super, avec des tas de gens qui faisaient des tas d'événements partout, sur les 5 continents. Super. Qu'est-ce qu'on allait faire, nous, à la coordination centrale? Des événements. C'était stupide. Donc, tout ce qu'on pouvait faire, c'était mettre en valeur ce que faisaient les autres. Alors, on a fait un petit groupe avec les gens pour essayer d'aller chercher des événements, des photos, des vidéos, etc. Et puis on s'est dit, il y a tellement de gens qui vont faire des trucs vidéo. Déjà en 2000, hein, en 2000, les gens faisaient des concerts et puis ils filmaient ça, ils mettaient ça sur Internet. On s'est dit, on va faire la chaîne de télévision de l'Italia Fiesta pendant 3 jours. Eh bien, il y aura des trucs de tous les continents. Et donc, à un moment donné, on va passer ça, on va passer ça, on va passer ça. Puis on s'est dit, mince, imaginez qu'une seule personne au Guatemala, il voit son émission, il n'arrive pas à diffuser sur Internet, et on va nous dire, ah, regardez, dans vos 3 jours, là, il y a eu 2 heures, c'était le dernier écran noir. Donc, si on faisait ça, la moindre personne qui ratait, c'était un échec. Alors, on a décidé de faire quand même l'inverse, on a tout cassé, on a dit, voilà, non, on ne fait pas une chaîne continue là-dedans, on prend toutes les vidéos qui arrivent, et on les met en ligne. Des fois, il y avait 2 vidéos en même temps, des fois, il n'y avait rien. Et puis, on met tout ce qu'on peut, un peu en parallèle, comme ça. Alors, résultat, il y a à peu près, c'est pas un ou deux qui a foiré, c'est la moitié. Ça a été un immense succès. Des heures et des heures. Personne n'avait jamais vu ça à l'époque de vidéos sur Internet, tellement il y avait d'heures. Alors que la moitié ont foiré. Pourquoi ? Parce que dans un cas de figure, un qui rate, ça pose un problème. Ici, un qui réussit, et ça fait un avantage. Alors ici, on est bien dans le domaine des opportunités et ici, les contraintes. Alors dans votre groupe, vous avez des opportunités, des contraintes. L'ensemble des membres de votre groupe qui ne sont pas coordinateurs sont là pour gérer les opportunités. Vous cherchez une question, vous voulez trouver des idées. Toute personne, n'importe laquelle, même celle que vous n'attendiez pas, qui apporte une nouvelle idée, c'est un plus. S'il ne l'apporte pas, ce n'est pas grave. La définition, c'est qu'on ne sait pas qui fait. Par contre, si vous attendez un rôle très particulier parce que telle personne doit coordonner telle chose, à ce moment-là, là, c'est un rôle de contrainte. Donc les coordinateurs ou le coordinateur ou l'équipe de coordination, eh bien, est là pour gérer des contraintes, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'échouer. Donc ça veut dire qu'un groupe coopératif, c'est un groupe où on a séparé les opportunités des contraintes. Les opportunités, c'est fait pour la communauté. Plus c'est grand, mieux c'est parce qu'on va avoir plein d'idées. Donc plus on a de cordes, mieux c'est. Et puis les choses qui sont importantes, pas perdre la mémoire. Définir les objectifs, etc. Garder en mémoire quels sont les objectifs, par exemple, aussi, ça c'est important. Eh bien, ça, c'est un aspect qui doit être resté dans la coordination. Si le groupe est suffisamment mature et que vous pouvez le faire collectivement, faites-le. Si vous voulez le faire avec un petit groupe de coordination, faites-le, mais attention, ce petit groupe-là, eh bien, il va être un groupe de coordination. Alors, juste pour terminer sur ce point-là, une petite histoire que je trouve très drôle, c'est que ça, c'est expliqué dans un livre que j'avais fait sur la coopération, et un jour, Daniel Mathieu, qui est la personne qui a créé la Botanica, est venu me voir en me disant « Ah, j'ai trouvé un truc génial dans ton bouquin, et je l'ai mis en œuvre dans la Botanica. » J'ai regardé, je lui ai dit « Mais j'ai jamais écrit ça. » Alors, je regarde dans le livre, et puis, effectivement, il avait compris quelque chose que moi, je n'avais pas vu du tout. Donc, ça veut dire que quand on écrit quelque chose, des fois, on est un peu à côté de la plaque. Il avait vu un truc très intéressant, il a dit « Lorsque j'ai vu qu'il fallait séparer les contraintes des opportunités, j'ai monté 2 choses à Tela Botanica. » Tela Botanica, c'est un réseau qui est là pour faire, avec des francophones, de la botanique. Donc on échange des idées sur les plantes, etc. Eh bien, il a fait 2 choses. Il a fait une association, déjà, qui gère les contraintes, et un réseau. Alors le réseau, il a une particularité, il n'existe pas. C'est-à-dire que n'importe qui, vous pouvez vous inscrire, je suis inscrit dedans. Je peux vous dire qu'en botanique, je suis vraiment nul. Donc je suis un passager clandestin, je ne fais rien, je suis inactif, c'est pas grave. Et par contre, il y a des milliers et des milliers de personnes, et grâce à ça, ce réseau, il a fait des trucs fantastiques. Maintenant, il y a quand même des problèmes, c'est qu'il faut pouvoir le coordonner, il faut des outils, il faut des serveurs, il faut un peu d'argent, donc il faut peut-être des permanents. Et ça, c'est un problème de contrainte. Alors, il a monté une association qui s'appelle Tela Botanica, qui n'est pas tellement démocratique parce qu'il n'y a pratiquement pas de membres, mais qui est là juste pour gérer les contraintes, qui est un peu le secrétariat, si vous voulez, d'une certaine manière, du réseau, et qui est là avec des permanents salariés, qui est là, on parlait tout à l'heure des problèmes de droit et tout ça, qui est là pour gérer les problèmes s'il y a jamais un procès demain, eh bien, c'est l'association qui peut gérer, le réseau n'existe pas. Et donc, la façon de gérer à la fois les contraintes et les opportunités, ça a été de faire 2 choses. Un réseau, qui n'existe pas physiquement, hein, enfin, qui n'existe pas même institutionnellement, et une structure qui, elle, eh bien, va être la plus petite possible parce qu'elle est là pour gérer les contraintes. Ce n'est pas très démocratique, hein, ce n'est pas avec 200 membres, on s'en fiche. Parce que là, il faut être juste sûr que ça ne rate pas. Parce que si ça rate, il n'y a plus de salariés pour coordonner, il n'y a plus de serveurs, il n'y a plus des financements, etc. Donc, en fait, l'idée de séparer les deux choses, c'est extrêmement intéressant. Et dans un projet aussi complexe que la Botanica, eh bien, ça s'est traduit non pas par un coordinateur et plein de membres, mais par une structure, on va appeler de secrétariat, en fait, ça serait peut-être le bon terme, et plein de membres. Et il se trouve que c'est exactement la structure qu'a choisi les gens qui travaillent sur les normes de l'Internet, c'est-à-dire l'IETF, qui est l'organisme international qui réunit à chaque fois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, je crois, 4 à 5 000 personnes, quand même, pas autant que l'apéro, mais pour faire les normes d'Internet, c'est pas mal. Et la particularité, c'est qu'il n'existe pas. Donc c'est un réseau. Et vous pouvez honnêtement, à partir du moment où vous participez aux listes de discussion. Et les aspects légaux, importants, critiques, etc., sont gérés par un sous-groupe, l'IAB, qui, lui, est en fait structuré comme un groupe de travail de l'Internet Society, donc d'une autre association existante, de droit américain, etc., qui est là juste pour gérer les procès, les trucs comme ça, etc. Regardez Wikipédia. Wikipédia, c'est un réseau, ça n'existe pas. Et vous avez la Wikimedia Foundation qui a un seul but. Elle s'interdit d'ailleurs de regarder ce qui se passe à l'intérieur des contenus de Wikipédia. Elle est là pour trouver l'argent, pour faire maintenir les serveurs et pour gérer les procès. C'est tout. Gérer les contraintes. Donc vous voyez, c'est une structure qu'on retrouve souvent. Oui, oui. Alors ça veut dire qu'aussi, à un moment donné, il faut... Alors justement, comment... Oui, oui. Non, mais même en droit américain, parce que le droit américain, ils aiment encore plus les procès. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, d'une certaine manière, sur Wikipédia, ce qui est intéressant, c'est que la Wikimedia Foundation s'interdit... Alors, évidemment, elle fixe des règles. Donc elle a fixé quand même un truc d'éthique pour qu'on respecte ce truc-là. Bon, mais donc elle peut intervenir uniquement si on ne respecte pas la charte. Par contre, sur le contenu, elle s'interdit de regarder tant qu'on n'est pas en dehors. Donc, elle a géré juste la charte pour les contraintes. Et donc là, elle peut dire, ah, moi, je suis responsable, j'efface ça, mais attention, c'est pas j'efface ça parce que je ne suis pas d'accord, j'efface ça parce que ça n'est pas dans la charte. C'est totalement différent. Et donc, si jamais, et alors c'est très, très intéressant, il y a eu des débats sur l'article sur les sectes, par exemple. Eh bien, à un moment donné, pour respecter la charte, il a fallu mettre dans des avis très différents. Entre certains qui disaient, bah ouais, mais si nous on est une secte, à ce moment-là la chrétienté est une secte, etc. Eh bien, l'article est devenu, en fait, certains pensent ceci, certains pensent cela, conforme à la charte, très bien. Donc vous voyez, c'est très subtil, mais effectivement, ça permet, y compris d'aller chercher des financements, parce que c'est quoi un procès ? C'est de l'argent, hein, c'est des avocats, c'est tout ça. Par exemple, là, on parle de projets très complexes. Hein. Dans votre cas de figure, très probablement, vous pourrez, à vous tout seul, en tant que personne physique aussi, gérer les contraintes, ou éventuellement à deux ou trois. Mais attention, les deux ou trois personnes, si jamais vous êtes plusieurs, n'ont pas le droit à l'erreur, comme le petit maillon là. Et tous les autres, ils ont le droit au succès, et vous, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et c'est toute la différence entre ne pas avoir le droit à l'erreur ou avoir le droit au succès. Donc votre rôle, je suis malheureux de vous le dire, c'est de gérer les contraintes pour permettre de développer des opportunités.
C'était une question à laquelle je me suis posé quelqu'un, répartition des tâches de coordination, est-ce que tout doit être partagé donc...
Ouais. Là on voit bien, effectivement, on voit bien ces aspects de répartition. Aucune structure ne peut dégager du temps. Alors effectivement, on voit que si elle ne peut pas dégager du temps, ça veut dire qu'on n'est jamais sûr qu'elle fonctionne, la ficelle. Donc il y en a certains qui vont fonctionner, oui, d'autres non, mais elle ne peut pas faire des tâches critiques. Si vous demandez aux structures qui participent à votre truc de faire des tâches critiques, ça ne marchera pas. Si vous leur posez des questions en disant, bah, tout ce que vous allez faire en plus, ça va apporter des idées, tant mieux, et que vous n'avez que 10% qui participent, eh bien vous devez avoir gagné. Donc en gros, un réseau, c'est quoi ? Je vais dire à des chiffres un peu bidons, mais c'est 1% des personnes qui sont extrêmement proactives, 10% des personnes qui vont être réactives et qui vont apporter des choses, et 90% des gens qui ne vont rien vous apporter. Et il faut qu'avec ça, vous arriviez à produire plus de valeur que si vous aviez que des personnes contraintes avec plein d'argent. Ce qui veut dire qu'il faut évidemment beaucoup plus de personnes, bien sûr, pour ça.
La charte de Wikimedia, qui est-ce qui l'a écrite ? Du coup, c'est Wikimedia.
Alors, je crois qu'à un moment donné, ça doit être fait... Parce qu'il y avait des débats à la Fondation, mais je crois que ça a été fait avec les gens de Wikipédia et de Wikimedia, en fait. Je crois que ça a été fait avec en qualité, il me semble. Parce que après, Wikimedia dit, je suis prêt à endosser le truc parce que je suis d'accord avec la charte. Bon, mais effectivement, je crois que là, c'était collectif, c'était encore mieux, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une charte comme ça, à Tela Botanica, hein, et elle a été écrite par qui ? Par l'association, de façon, ou par Daniel, de façon centralisée, ou par les gens ? De façon centralisée, d'accord. Voilà une autre solution, par exemple. De la quoi
de la limite entre les deux pures d'oignons.
D'accord, ouais, entre le...
Là, nous, effectivement, on assume ça. Ouais. Et dans ce cas-là, on a... Oui, on a du point d'intérêt à faire de sa responsabilité.
Donc, un des aspects qu'on parlait de... Qu'en fait, un début, c'était de devenir conscient. La question dans ce boîte de conscience, c'est est-ce que ceci est une contrainte ? Si tout le monde part de l'histoire et puis qu'il y a un grand site, etc., c'est peut-être plus une contrainte et donc vous pouvez mettre ça à tout le monde. Hein, pourquoi pas ? Est-ce que le choix des objectifs, ce n'est pas une contrainte ? Le fait de ne pas oublier d'avoir des objectifs, ça peut l'être. Donc vous, coordinateur, pouvez être garant qu'on n'oublie pas de faire des objectifs. Donc c'est une contrainte. Et puis, par contre, vous pouvez décider que c'est collectif. c'est pas forcément une contrainte. Vous pouvez choisir. Par contre, le plus grave, ça serait de pas choisir. Donc, sachez dans votre projet qu'est-ce qui, aujourd'hui, par rapport à l'étape où vous en êtes, est une contrainte et qu'est-ce que, au contraire, est une opportunité. Un groupe coopératif, c'est un moteur à fabriquer d'immenses opportunités que ne pourrait pas faire un système économique classique. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gérer des contraintes, par définition. Alors, on peut appuyer sur le bouton pour passer au point suivant.